Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire terrible de Christian Iaconou. En 2000, il est le maire de Vence, sur la Côte d'Azur, et son petit-fils Gabriel l'accuse de l'avoir violé. Gabriel va mettre 11 ans à reconnaître qu'il a menti, et Christian 15 ans à laver son honneur. J'ai tiré ce récit de son livre « Le mensonge » aux éditions Sud-Arène. Il sera là, tout à l'heure. J'ai écrit cette histoire avec Simon Veil, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
En l'an 2000, je suis maire de Vence depuis 11 ans, président de la communauté des communes de Provence Azur et suppléant du sénateur. Tout va bien. On a une belle maison, une piscine, un grand jardin. Tout va bien. Le lundi 10 juillet 2000, je sais que j'ai rendez-vous avec des policiers de la PJ, mais je pense que c'est pour la mairie. J'arrive à mon bureau à 9h, comme d'habitude, ils sont là. Je les fais asseoir. Voilà, monsieur Iaconou, nous avons une plainte contre vous. Elle vient de Reims. C'est assez grave, je dirais. Reims ! Ça fait comme une explosion dans ma tête. Reims ! Reims, c'est là qu'habite mon fils Philippe et ma belle-fille Elisabeth. 10 ans qu'on est en conflit. Mon fils me fait 1000 reproches. Il y a 3 ans, ils ont voulu nous empêcher, ma femme et moi, de voir notre petit-fils Gabriel. Il a fallu qu'on aille devant les tribunaux pour obtenir un droit de visite. 2 semaines par an. Et donc cette plainte vient de Reims. Ils en sont donc arrivés là. Alors la plainte, monsieur Iaconou, émane de votre fils et de votre belle-fille. Ils vous accusent de sévices sexuels sur leur enfant. Sévices sexuels ? C'est insupportable à entendre. Nous devons instruire cette plainte, monsieur. Et dans ce cadre, nous souhaitons faire une visite chez vous. Oui, bien sûr, quand vous voulez. Nous allons le faire maintenant, monsieur Iaconou. Maintenant. Je sors de la mairie, encadré par 3 inspecteurs de police. Ils me font monter dans leur voiture. On arrive chez nous. Ma femme arrive à notre rencontre.
Bonjour, messieurs. Qu'est-ce qui se passe, Christian ?
Ces messieurs viennent pour une vérification, chérie. À la suite d'une plainte contre moi, qui vient de Reims.
De Reims ? Ils ont osé !
Et ils se mettent à fouiller notre maison. Mon bureau, mes dossiers ouverts, jetés en vrac. Ils tombent sur un article du Monde diplomatique sur l'enfance maltraitée. Ils le saisissent, comme ils saisissent 2 numéros du Monde dans ma chambre qui ont le tort de parler de pédophilie. Ils s'intéressent aussi à mes cassettes vidéo, et notamment celles qui portent le prénom de Gabriel.
Vous pouvez les lire sur votre magnétoscope, s'il vous plaît.
Mais ce sont des images de sa naissance, de son anniversaire, des vacances. Ils prennent aussi mon ordinateur, mes disquettes, et ils m'emmènent pour être interrogé à la PJ de Nice.
Bonjour monsieur, je me présente, je suis inspecteur à la police judiciaire. Je suis chargé d'instruire une plainte venant de votre fils et de votre ex-belle-fille. Alors, on va commencer par les déclarations de votre ex-belle-fille, Elisabeth. Je vous lis. Le 28 janvier, Gabriel a fait une crise. Il a tout renversé dans sa chambre et pris un couteau qu'il a mis sous sa gorge. Je lui ai dit qu'il avait sans doute une grande souffrance cachée. Et c'est alors qu'il m'a dit qu'il subissait des sévices sexuels de son grand-père paternel lorsqu'il venait en vacances à Vence. Votre belle-fille cite par ailleurs un médecin, le docteur Dullière, qui confirme l'existence de 2 cicatrices typiques de la sodomie sur la marge anale. Et par ailleurs, j'ai là le rapport de la psychologue qui a examiné votre petit-fils. Elle dit que l'enfant est crédible. Qu'avez-vous à répondre, monsieur Iacono ?
Je sais pas. C'est tellement énorme.
C'est une affaire criminelle, monsieur Iacono. Vous encourez de 10 à 15 années de réclusion criminelle.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ?
J'ai jamais touché cet enfant. Jamais. Dites, monsieur, par ailleurs, vous dites que l'enfant aurait fait ses déclarations le 28 janvier. Pourquoi est-ce qu'ils nous l'ont envoyé en vacances le 12 février, alors ?
Bien. Maintenant, je vais vous lire la déclaration de votre fils. Alors. J'avais remarqué qu'à l'âge de 3-4 ans, Gabriel dessinait des personnages avec un grand zizi, surtout lorsqu'il revenait de vacances à Vence. Mon père est un personnage dominateur et séducteur, et à la question qui lui est posée « Comment votre père réagira-t-il ?», votre fils répond « Il prendra un revolver qu'il possède, et il viendra nous tuer tous les trois, ou il se suicidera en disant qu'il est innocent. » Alors, monsieur Iacono, qu'en dites-vous ?
Je crois qu'il va falloir que je vous explique pourquoi. Avec mon fils, on a des relations difficiles depuis...
17 ans maintenant. Vous voyez, monsieur l'inspecteur, mon fils a commencé à me détester quand il a rencontré Elisabeth, à laquelle il s'est marié et dont il a divorcé depuis. Je dois vous expliquer qu'elle et sa famille appartiennent à la communauté baptiste. Et lui, il s'est converti à cette religion. Et on était, ma femme et moi, assez mal à l'aise avec ça. Pour nous, c'est une secte, quoi. Et disons qu'à partir de cette époque, il a fait de moi le bouc émissaire de tous ses malheurs. Par exemple, il dit que je l'ai forcé à faire médecine. Une autre fois, il voulait aller faire le tour du monde avec mon voilier, j'ai pas voulu. Ils avaient un bébé. Il fallait qu'il assume. Alors, monsieur Iacono, maintenant, il faut que je vous lise les déclarations de Gabriel. Votre petit-fils de 9 ans, sur procès verbal. Papy me touchait le zizi lorsque mamie me changeait les couches. Mais enfin, monsieur l'inspecteur, quand il avait les couches, il était bébé. Il peut pas se souvenir.
Sans doute, sans doute. Je poursuis.
Ce que m'a fait papy au temps de Jésus était puni de mort. Je le dénonce parce que je ne veux pas que ça arrive à Adrien, mon petit cousin.
Enfin, vous voyez bien que tout ça est influencé par les parents.
Il est 5 heures de l'après-midi. Je n'ai rien avalé de la journée. Je suis écœuré de cette histoire sordide qui met en scène mon petit-fils Gabriel, qui lui fait jouer un rôle infâme. Je suis écœuré de devoir répondre à des trucs complètement inventés. Bien, on vous reverra plus tard avec mes collègues, hein ? On m'a vidé les poches. Enlever la ceinture, les lacer, et me voilà en cellule. Je me dis qu'ils ont entendu ma femme et ma fille, qu'ils vont voir que c'est un montage des parents. On m'apporte un sandwich. Impossible de manger. Dans la nuit, on vient me chercher et on me met dans un autre bureau. Et on reprend tout depuis le début. Et vers minuit, le ton change.
Avouez, monsieur Iacono. Dites que c'est vous qui l'avez fait. On n'en est convaincu avec mes collègues. Et d'ailleurs, vous n'avez pas l'air de vous soucier beaucoup de ce qui est arrivé à Gabriel. Bon, allez. Vous n'avez pas fait tout ça, d'accord. Mais vous avez fait un petit peu. Vous nous le dites et puis on va se coucher. Mais enfin, même sous le couperet de la guillotine, je pourrais pas dire ça. La pédophilie me fait horreur.
Vers 2 heures du matin, l'inspectrice se lâche.
Vous voyez, ce qui me choque le plus, monsieur, c'est votre insensibilité. Vous me dégoûtez, monsieur. Et oui, le gentil papy, vous savez ce que c'est que sodomiser, monsieur? C'est enculé, monsieur.
Je n'oublierai jamais cette scène. Jamais. Cette petite bonne femme de 30 ans qui vient me faire la morale. Moi, un homme de 65 ans, blessé et meurtri. Ils m'ont demandé si je voulais un avocat. J'en ai choisi une qui est de grâce. Elle sera la plus vite. Et ensuite, on me conduit dans le cabinet du juge. Et arrive le moment où on décide de mon sort. Et pour ça, on fait venir le procureur.
Madame la procureure, je vous écoute pour vos réquisitions. Bien écoutez, c'est une affaire criminelle, hein, il y a un risque de trouble à l'ordre public. Je considère qu'il faut éviter toute pression sur les témoins. Et donc je requiers le placement en détention, monsieur le juge.
Maître?
Mais enfin, si vous prenez une mesure d'incarcération, vous vous rendez compte que vous le tuez civilement?
Merci, maître.
Bien, monsieur Iacono, notre devoir est de protéger les enfants, n'est-ce pas? Et je vais donc vous embastiller, comme on dit. Malheureusement, en août, il ne se passera rien. Il faudra bien compter 6 mois pour avoir les résultats des expertises. De toute façon, mon mandat de dépôt est 2 ans.
On me repasse les menottes. On m'emmène avec 3 autres détenus dans la petite cage grillagée d'un fourgon jusqu'à la prison de Grasse.
Déshabillez-vous, monsieur. Voilà. Tournez-vous. Penchez-vous en avant. Soulevez le pied gauche. Bien. Le droit. Bien, vous vous rhabillez et vous attendez. Merci.
On me donne un matelas. On m'ouvre une cellule de 2 mètres sur 4 avec un lit en fer.
J'ai envie de pleurer. Comme un gosse. Mais mes yeux restent secs. Les larmes ne sortent pas. Je ne suis plus monsieur le maire. Je suis Iacono, détenu 11547. J'ai décidé de vivre, de survivre, pour moi, pour ma femme, pour ma fille, pour mes proches, pour la vérité, qui finira bien par éclater. Et pour ne pas donner raison à mon fils qui a prédit froidement que je me suiciderai en écrivant que j'étais innocent. C'est une épreuve de la vie. Chacun sa croix. On est le 14 juillet 2000. Je devrais être chez le préfet à cette heure-ci, avec tous mes collègues. Ha ! Le directeur de la maison d'arrêt doit y être. On doit lui demander... Et Iacono, comment est-il? Oh, c'est terrible cette histoire. Et moi, je marche de long en large dans la cour de promenade. Un Corse m'a dit qu'il me protégerait. Et Fauzi, le mari de la femme de ménage de ma mère qui est là, m'a dit qu'il avait prévenu tous les maghrébins qu'il ne fallait pas qu'on me touche. Les plus jeunes ont vu la télé. Ils me crient à travers la grille. Faut que tu cries ton innocence! On l'a vu dans tes yeux que t'es pas coupable!
Ça me touche beaucoup. Et ça m'aide à surmonter. Trois fois, je fais des demandes de remise en liberté. Chaque fois, c'est une épreuve. On me donne le costume que ma femme m'a porté. Je fais le trajet, menotte au poignet. Et à chaque fois, je me dis, comment un maire peut se retrouver dans cette boucherie avec les plus grands délinquants du sud-est de la France? On me pousse dans une salle d'audience, on m'enlève les menottes, on lit les faits horribles que j'aurais commis sur mon petit-fils. J'ai honte, honte qu'on puisse dire des choses aussi infâmes sur moi. Et la troisième fois, on m'accorde la remise en liberté, après 3 mois de prison, et je la prends par un surveillant.
Vous êtes libéré, monsieur Iacono. Préparez rapidement vos affaires, je reviens vous chercher.
Je me jette sur mes affaires. Je les entasse n'importe comment dans des sacs poubelles et quand je sors dehors avec tout mon barda, ma femme et ma fille sont là. Elles me tombent dans les bras. Pendant 2 jours, Je ne sors pas. Je n'ai qu'une envie, rester dans ma tanière avec les miens. J'appréhende le dehors. J'appréhende le regard des gens. J'appréhende leurs pensées. Et puis, je suis toujours maire de Vence. Il faut bien que je reprenne mes fonctions. J'arrive sur la place de l'hôtel de ville. Tous mes amis sont là. On s'embrasse. Ils m'encouragent. J'ai décidé de me représenter aux prochaines élections, dans 5 mois. Je me dis que le suffrage universel est le seul moyen de clamer mon innocence. Mon nouvel avocat m'a proposé de venir lire le dossier. Et c'est comme ça que je découvre toutes les déclarations faites par Gabriel, par ses parents et par ses grands-parents maternels. Ah ! Les parents d'Elisabeth. Ils m'ont bien chargé. Sa mère a dit des choses comme « Gabriel ne ment jamais » ou « Monsieur Iacono est bien coupable, j'en suis certaine ». Elle n'en sait rien en vérité. Elle aurait dû se taire. Et quand je lis les déclarations d'Elisabeth, mon ex-belle-fille, je m'aperçois qu'elle a contaminé la parole de son fils. Il a dit qu'alors qu'il était tout nu, son papy a baissé son caleçon, qu'il s'est mis derrière lui et qu'il a essayé de lui mettre son zizi dans les fesses. Et idem pour les dépositions de son père, mon fils. Gabriel m'a dit que papy avait pris son zizi pour une sucette et qu'il lui avait léché les fesses, qu'il avait eu mal et qu'il n'avait pas pleuré. Tous les deux disent que Gabriel leur a dit qu'il avait une preuve. Il a parlé d'une cassette audio où il avait enregistré quand papy le menaçait, comme quoi il aurait de gros ennuis s'il parlait. Et je ne vous parle pas du rapport de la psychologue, Madame Jou. Gabriel est entré dans mon bureau, il s'est assis et immédiatement il m'a dit « C'est à propos de mon papy que je viens ici, j'ai l'impression qu'il déposait un fardeau. » Au lieu d'interpréter ça comme le dépôt d'un fardeau, elle aurait dû s'étonner qu'il semble réciter, qu'il s'agit d'un enfant contaminé par ses parents. Quant à l'audition de Gabriel lui-même par la PJ, les questions sont fermées, ça saute aux yeux. Exemple, tu me dis qu'il a touché ton zizi, qu'il l'a caressé, qu'il l'a tiré et qu'il l'a sucé. On ne peut pas faire mieux pour conforter un enfant dans son mensonge. Quand on lui demande, autre exemple, est-ce qu'il y a du liquide qui est sorti de son sexe, par les questions posées, on l'aide à bâtir son scénario. Deux années s'écoulent, 2 ans. Et le 23 octobre 2002, je suis enfin convoqué par la juge d'instruction. La réception est glaciale. Pas un sourire, pas un bonjour, pas un serrement de main. Elle me lit les déclarations des parents, du psychologue qui a vu l'enfant la première fois, du médecin qui a fait le signalement. « Qu'en dites-vous, monsieur Iacono ?» Et dès que je conteste un point, elle se met en colère. Elle fait la moue. Et puis arrive la grosse attaque. « Monsieur Iacono, 3 médecins ont constaté des lésions anales typiques de la sodomie, ainsi qu'une probable lésion du sphincter. Qu'avez-vous à dire à ça, monsieur? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris contact avec le médecin traitant de Gabriel? Pour savoir, je sais pas, moi, s'il est sujet à des constipations. J'ai demandé une contre-expertise, de toute façon. Oui, enfin, pour l'instant, je l'ai reporté. Hein. Il ne faut pas traumatiser un enfant qui est déjà très fragile. Mais c'est un examen anodin, madame. Bref. C'est un interrogatoire à charge. D'un bout à l'autre, c'est un interrogatoire à charge. Et quand c'est fini, je suis effondré, découragé. Et les années passent encore. Et arrive la confrontation entre Gabriel et moi. Gabriel est à une extrémité de la pièce et moi à l'autre bout. Et les avocats en robe noire nous séparent. La juge nous a prévenus. C'est elle qui pose les questions. Bien, Gabriel, est-ce que tu peux, s'il te plaît, raconter ce qui t'est arrivé? Je préférerais répondre à des questions. Évidemment. Ça lui permet de ne répondre que par oui ou par non.
D'accord, Gabriel. Tu as dit que ton grand-père t'avait mis le zizi dans les fesses.
Oui.
Tu as dit que ça s'était passé dans la salle de bain.
Oui.
Que dites-vous, monsieur Iacono, devant ces accusations ?
Je vous affirme qu'il n'y a rien de vrai là-dedans !
Et là, mon avocat pose une question à Gabriel.
Gabriel, qu'est-ce que c'est le mensonge pour toi ?
Ben, il y a deux sortes de mensonges. Il y a celui qu'on fait à l'école, et puis celui qu'on fait à la maison et qu'on est obligé.
Comment ça ? Tu peux nous expliquer ?
Et là, l'avocat de Gabriel intervient.
Mais enfin, cet enfant est fatigué. Madame le juge, il faut arrêter la séance.
Et elle lui donne raison. Fin de la confrontation. Le 22 décembre 2006, après 6 années d'instruction, la juge décide de me renvoyer devant la cour d'assises. Mon procès débute finalement en avril 2009 devant la cour d'assises de Nice.
Le maire de Lens est jugé à partir d'aujourd'hui devant les assises des Alpes-Maritimes.
Et toute la semaine, le maire de Vence va devoir répondre du viol présumé de son petit-fils. Les faits se seraient déroulés entre 96 et 99, lorsque le petit garçon était âgé de 5 à 8 ans. Et Christian Iacono, toujours en poste actuellement à la mairie, affirme qu'il n'est pas coupable.
Et Gabriel a maintenant 18 ans. Et il parle de sa souffrance, de sa douleur.
Ça, on ne peut pas l'inventer.
Ça fera le titre de Nice Matin le lendemain. Et à la fin de ces 6 jours de procès,
par une majorité supérieure de 8 voix, M. Christian Iacono est reconnu coupable de viol et d'attouchement sexuel sur son petit-fils Gabriel. Il est condamné à 9 années de réclusion criminelle.
Il est 1h du matin. Je suis sidéré. Je me retourne vers le fond de la salle. Les amis sont là, immobiles, pétrifiés. Je vais retourner en prison. 9 ans après, je vais retourner en prison. Mon avocat me glisse à l'oreille.
On va faire appel. Et je vais demander votre remise en liberté dès votre arrivée à la maison d'arrêt.
J'ai été libéré dans l'attente de mon procès en appel à ma 3e demande. Et mon procès en appel est un nouveau cauchemar. Dès le premier jour, par le ton des questions du président, je comprends qu'il a l'intention de me condamner. Mon avocat m'a dit de me défendre énergiquement.
Comment, dans cette salle de bain, au vu et au su de toute la famille, j'ai pu sodomiser un enfant de 6 ou 7 ans? Comment?
Il va vous le dire, lui.
Alors, Gabriel,
dis à ton grand-père comment tu étais lorsqu'il t'agressait.
On était debout.
Vous voyez, monsieur Iacono, vous étiez debout.
Mais enfin, monsieur le président, il avait 6 ans. Sa tête m'arrivait au niveau des hanches. Comment j'ai fait? Je me suis mis à 4 pattes.
Et à la fin, le jury confirme 9 ans de réclusion criminelle. Je n'oublierai jamais le sourire de satisfaction de mon fils quand il prend Gabriel dans ses bras. Et moi, je repars en prison. J'ai appris que Gabriel n'a pas voulu rentrer à Reims. Il est resté sur la côte pour, dit-il, commencer une nouvelle vie. Il s'est rapproché de ma fille Cécile. Elle m'a dit qu'elle ne lui avait parlé de rien. Elle a raison. Il faut lui laisser le temps parce que je suis convaincu qu'il ne pourra pas vivre avec ce mensonge. Un jour, il dira la vérité. Le 11 mai 2011, je suis dans ma cellule, prêt pour la promenade.
Iacono, parloir avocat.
J'arrive au parloir, et là mon avocat me jette sur la table le Nice Matin du jour, barré d'un énorme titre. Mon grand-père ne m'a pas violé.
Je m'assois. Toutes ces années. Toute cette souffrance. De toute cette salissure, Comme j'aimerais que Gabriel soit là près de moi. Je voudrais le serrer. Je voudrais lui dire comme je suis fier. Fier de le voir triompher du mensonge.
Trois ans plus tard, la cour de révision casse le verdict. Et quatre ans plus tard, je suis rejugé à Lyon et acquitté.
C'est un grand moment d'émotion. Ça vient après 15 ans de calvaire, pratiquement. Je n'ai pas encore bien réalisé. Et je crois que ça ouvre la porte vers un avenir avec un peu de bonheur dans notre famille. Et je crois que c'est des jours nouveaux qui se présentent à nous, avec enfin un petit rayon de bonheur, un rayon de soleil.
Vous lui pardonnez ?
D'abord, un enfant, on pardonne toujours. Et j'en ai jamais voulu vraiment à Gabriel. Je savais qu'il était prisonnier de son mensonge.
Et me voilà donc avec Christian Iacono, à qui j'ai imposé ce retour en arrière, pardon, qui vous a touché manifestement.
Oui, c'est toujours toujours douloureux. À mon esprit, même si le temps a passé et je suis un petit peu plus solide, mais c'est quand même un moment de ma vie qui a été particulièrement difficile à vivre. Et en tous les cas, je vous remercie parce que je crois qu'il faut rétrécir en quelques minutes, 14 ans de vie. Ouais. Et je crois que vous avez quand même mis l'accent sur les moments peut-être les plus importants, et je trouve que c'est très bien fait. C'est pour ça que ça m'a touché.
Vous êtes chrétien, je suppose.
Chrétien, oui.
Oui, parce que votre capacité à pardonner aussi vite n'est pas facile à comprendre. Vous le savez, ça.
Je sais, et certains me le reprochent encore. J'ai hésité, effectivement. Mais on connaît cet enfant, nous, depuis sa naissance. On l'a vu. On savait qu'il était assez malheureux. Bon, les histoires de famille, j'ai essayé de ne pas en parler trop parce que c'est des histoires de famille. Ouais. Mais on était très attachés à lui et je n'ai jamais cru à ce qu'il disait. Je savais que c'était faux. Mais
vous avez toujours eu de la compassion pour lui?
Parce qu'il était très malheureux.
Mais il n'y a pas eu un moment. Mais quand vous lisez les procès-verbaux, vous ne dites pas le salaud.
Non.
Jamais.
Non. Je ne peux pas dire le salaud parce que il est parti dans une mauvaise direction. À 9 ans, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, tout ça. Hein. Lui, elle interroge, est-ce que le sexe est gros? Est-ce qu'il y a du liquide qui sort? Il ne sait pas ce que ça veut dire encore. Ouais. Et ensuite, ils l'ont enfermé dans ce mensonge. Moi, j'avais l'interdiction de le voir, de lui téléphoner, de lui écrire, de ma femme pareil, ma fille pareil. Donc, d'un côté, il avait un environnement d'une dizaine de spécialistes, des gens en uniforme, des policiers, des médecins, des psychiatres, qui lui disaient d'emblée, je lisais les instructions, étant donné ce qu'il a subi. Donc, ils avaient admis d'emblée que ça s'était produit. Et je savais que ça ne s'était pas produit. Mais lui, comment dire « j'ai menti » ? Il a mis du temps. Il a hésité beaucoup.
Il
nous a raconté.
Ça l'a travaillé,
mais il disait « tout ce que je dis, il le croit ». D'ailleurs, il avait inventé plein de choses, puisqu'à un moment, il a dit qu'on l'emmenait dans une villa, ça. Il n'avait pas dit dans une voiture, etc., avec un complice, tout celui qui a été acquitté. Ce qu'on n'a pas dit, puisque c'est la révision de la montrée, c'est qu'il avait fait une accusation en pension. Il était en pension à Reims à ce moment-là, donc 3 ans après, et il avait accusé un de ses copains de lui faire encore des agressions sexuelles. Il y a eu un dossier qu'on n'a pas montré au juré, on ne sait pas pourquoi.
Ça le valorisait, donc, d'une certaine manière.
Et il avait fait ça, mais il y a eu un non-lieu, donc il a été reconnu comme menteur. Et je savais qu'un jour ou l'autre, mais je ne voulais pas que ça traîne des années, ça a traîné quand même des années, mais qu'il arrive à le faire de lui-même, à dire la vérité, pour qu'il puisse respirer normalement le reste de sa vie. C'est quand même un gamin. Il a 10 ans, il a 12 ans, 13 ans, 14 ans.
Jusqu'à 20 ans.
Moi, j'en ai 84. Ouais. J'ai quelques années à vivre, mais lui, il a toute une vie à vivre. Il ne va pas vivre bâti sur un mensonge. Donc, j'espérais toujours qu'il finirait par le dire. Mais plus le temps passait, plus je commençais à avoir des doutes quand même hein, sur ça. Et voilà, ça s'est produit un peu tardivement. Je dirais que j'ai montré le dossier, le livre à un grand spécialiste mondial des fausses allégations. C'est un Canadien qui a écrit beaucoup de livres là-dessus, etc. Et quand je lui ai montré les livres, il a dit, vous savez, c'est remarquable parce que des rétractations, il n'y en a pratiquement pas. Alors qu'on sait très bien qu'il y a, je crois qu'il y a 30% de fausses allégations. Alors, j'ai pas pu lui en vouloir. Et par contre, dès qu'il devient adulte et qu'il connaît, là, je commençais à lui reprocher, enfin, dans ma tête, simplement, oui. de pas le dire. Enfant, je comprenais qu'il était coincé, qu'il était bloqué, qu'il y avait un environnement qui ne lui permettait pas de dire j'ai menti, il avait honte. Mais à partir de 18 ans, 19 ans, je trouvais qu'il aurait dû le dire un peu plus vite, un peu plus tôt.
Vous avez en face de vous, monsieur Iacono, un journaliste qui pense connaître bien la justice et qui, en général, lui fait confiance. Est-ce que vous étiez dans le même état d'esprit avant ?
Ah, complètement. Je n'avais d'ailleurs jamais eu affaire à la justice, j'avais jamais eu envie de la critiquer en quoi que ce soit.
Vous étiez plutôt du côté de l'ordre, vous
de l'ordre, voilà.
À l'UMP, n'est-ce pas ?
Non, même pas, enfin, oui, l'UDF à un moment, enfin plutôt...
Un homme de droite,
droit, centre-droit.
Centre-droit.
Voilà. Bon. Donc plutôt pour l'ordre, bien sûr, je crois que c'est nécessaire, il faut faire confiance à la justice.
Alors dans votre affaire, on peut dire que la justice a gravement dysfonctionné. Il y a un contexte, évidemment, on est quelques mois avant que n'éclate l'affaire d'Outreau, en vérité, donc c'est le même contexte, c'est celui de la sacralisation de la parole de l'enfant. Oui. Vous tombez à cette époque où, après avoir ignoré totalement la parole de l'enfant pendant des décennies, on se met à la croire à 100%. C'est ça, votre
c'est
histoire
ça. C'est ça. C'est exactement ça. Je n'avais aucun argument. Comment puis-je expliquer ou justifier mon innocence ? Je suis médecin, j'ai soigné des centaines, sinon des milliers d'enfants. J'aurais fait des radios, des échographies, des choses comme ça. Et j'ai une sensibilité vis-à-vis de l'enfance qui était tellement nette, tellement claire autour de moi. Tout le monde, je pensais jamais pouvoir être accusé d'une chose pareille.
Mais à ce moment-là, parce qu'on est accusé, on est coupable. En gros, c'est le mécanisme de l'époque. C'est dans l'esprit de la juge d'instruction, dans l'esprit des policiers, dans l'esprit de la psychologue, etc. On va revenir.
Vous savez, la justice a eu souvent une réponse, dès le début d'ailleurs. Des gens qui interrogeaient, mais comment, on le connaît, vous connaissez pas le dossier. C'est simple comme réponse, la justice. Vous connaissez pas le dossier. Ouais. Vous n'avez pas le dossier.
Donc tous les gens qui intervenaient en votre faveur.
Laissez entendre. Moi, j'ai un ami cher qui a téléphoné à ma femme en disant, il paraît qu'il y a un dossier, on signe un dossier comme ça. Il n'y avait qu'un cas, c'était avec mon petit-fils, dans le cadre d'un conflit familial. Donc c'était relativement simple. Non, mais on laisse entendre qu'il y a un dossier compliqué. Donc avec la justice, on a beaucoup de mal à s'en sortir. Mais c'est vrai que la justice a tendance à rattraper, je dirais, les erreurs passées, qui étaient plutôt du manque de dénonciation ou de poursuite de vrais pédophiles. Quoi. Mmh. Alors, il y a peut-être, on n'en faisait pas assez avant, maintenant on en fait peut-être un petit peu.
En tout cas, à votre époque, ça paraît clair. Alors, au cœur de la machine judiciaire, il y a cette juge d'instruction. Vous avez eu l'occasion de la revoir, elle vous a présenté le début d'une excuse.
Je ne l'ai pas revue.
Vous aimeriez
Je ne l'ai pas revue. Depuis que le dossier est passé en assise, après c'est passé à Aix-en-Provence, etc. Non, j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer.
Mais elle n'a pas souhaité. Elle aurait pu.
Oui. Non.
Qu'est-ce que vous lui auriez dit à cette juge ? Parce qu'au fond, vous le dites, elle l'a instruit à charge, prenant pour argent comptant les déclarations de Gabriel et de ses parents. Il y a une leçon à tirer de ça.
Bien sûr.
Laquelle ?
Je l'ai développée. Je pense qu'il n'y a pas une responsabilité. Chacun a une petite part de responsabilité. Les premiers responsables, ce sont les deux médecins de Reims qui ont dit il y a deux fissures typiques de sodomie. C'est pas vrai, il n'y a pas de fissure typique de sodomie. Je suis médecin. J'ai eu 15 ans pour travailler ça. J'ai vu les plus grands spécialistes, les vrais spécialistes des choses en France. Donc, il y avait une erreur, déjà, médicale de diagnostic. Il fallait surtout pas s'arrêter là. Il fallait faire une échographie, ce qui était évident. Et on aurait vu qu'on a, on l'a vu après. Il n'y a aucune lésion du sphincter, c'est pas vrai. Quant aux fissures, c'est banal et c'est absolument pas spécifique de sodomie. Et en plus, ça se guérit en un mois. Or, on m'attribuait des faits vieux déjà de 2 ans.
Donc, première chose que vous dites à la juge, méfiez-vous de vos experts.
Oui, c'est des gens qui se sont baptisés experts, mais qui sont des médecins pédiatres, quoi. C'est des simples pédiatres. Oui, vous savez, pour être spécialiste dans ce genre de choses, il faut pratiquer régulièrement. Donc, en dehors des grands centres qu'il y a à Paris, par exemple, j'ai vu la responsable de Paris qui a fait des livres et tout, qui a dit, mais ce dossier, montrez l'enfant à un psychiatre. Hein, elle avait baladé en quelques minutes. Vous avez à Marseille, Paris, Bordeaux, Lyon, peut-être à 4 grands centres où on voit suffisamment de cas d'agressions sexuelles différentes pour avoir quelqu'un qu'on peut dire vous êtes expert. Mais le gars, le brave médecin ou qui voit le deuxième cas de sa vie, ou c'est peut-être même le premier, celui qui était expert. Je me souviens de la dernière séance, quand on a été acquitté, il a fait signe, il a dit, vous avez vu beaucoup de cas, il a fait signe, zéro. On va voir un expert qui a jamais vu un cas de sodomie chez un enfant. Voilà.
À votre connaissance, au palais de justice, là-bas, on a essayé de tirer la morale de cette histoire. Dans l'affaire d'Outreau, il y a eu une commission d'enquête, de parlementaires, on a essayé de tirer les leçons. Chez vous?
Non, absolument rien. C'est un peu ma déception, parce que je suis, comme vous dites, un homme de l'ordre. Oui. J'aimerais bien que la justice, dans les cas des mineurs, fasse quelques progrès. Et il y a des progrès à faire en France, et on peut en parler, quoi. J'ai autour d'une table. Hein, je suis médecin, j'ai travaillé, il y a des livres, il y a des études faites au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, etc., qui sont refusées en France. Le recueil de la parole d'un enfant, c'est une technique très... très particulière, très difficile même. On s'interroge pour avoir la vérité quand un enfant parle. Eh bien, j'ai espéré que la justice voudrait bien un jour, peut-être à la suite de ce film...
Alors vous allez faire un film,
c'est pas moi qui fais un film.
C'est
une société qui a trouvé que le sujet les intéressait, ils font un film télévision qui s'appellera Le Mensonge. L'année prochaine, je pense, sortira.
Alors, on a parlé des experts tout à l'heure, pédiatres. Il faut qu'on parle de la psychologue qui a aussi joué un rôle essentiel dans votre dossier, en tout cas la première, celle dont le rapport arrive en même temps que les accusations portées par les parents de Gabriel. Cette experte psychologue dit « il faut le croire ». Voilà.
Oui, la crédibilité, je crois que la loi a interdit le mot « crédibilité » dans un rapport de psychologue. Parce que c'est un mot terrible. Ça lui donne une puissance terrible. Elle dit, c'est l'enfant est crédible, eh ben, y a plus, voilà. Ça y est,
il n'y a plus de discussion.
Il n'y a plus de discussion. Alors,
la psychologie est une science molle.
Voilà. Et deuxièmement, la loi, depuis, a imposé la vidéo au moment de l'interrogatoire de l'enfant. Et ça, c'est très important de voir comment on pose les questions, comment réagit l'enfant. Mais c'est vrai que les psychologues estiment trop souvent qu'ils sont des scientifiques.
Mais il y a eu des contre-expertises quand même dans votre affaire ou pas? Gabriel a été vu par d'autres psychologues.
Alors il a été vu par d'autres psychologues, oui, c'est vrai. Mais on dénote dans leur rapport la phrase « étant donné ce qu'il a subi », c'est ça. Mais donc, on ne leur demande pas s'ils croient ou pas. Pour eux, c'est évident, parce que des médecins ont dit « on a vu deux fissures », la psychologue dit « c'est truc ». Donc vous voyez, chacun fait une erreur. Une erreur, et on enferme l'enfant, il ne peut plus en sortir, quoi.
De métier, vous êtes radiologue, c'est intéressant, parce que du coup, a posteriori, ça vous a fait réfléchir sur votre métier plein d'assurance, de médecin.
Oui, mais je suis tout à fait... Chaque fois que je fais des diagnostics, on en fait 50 ou 60 par jour, hein, un radiologue. Je ne suis pas certain, absolument, mais si je ne suis pas certain... Je mets, il peut s'agir de telle chose et on demande des examens complémentaires. Là, sur un simple examen clinique, on dit c'est une sodomie et c'est sûr. L'ordre des médecins, je veux dire, l'ordre des médecins ne cesse d'envoyer des petites alertes écrites dans le bulletin de l'ordre des médecins en disant surtout, faites très attention quand vous faites un certificat sur des choses comme ça, parce que les suites sont énormes et soyez prudents.
Il y a aussi un sujet dont il faut qu'on parle, c'est la prison, parce que vous avez, c'est extrêmement rare pour des élus, des hommes politiques, vous avez été un homme politique important sur la Côte d'Azur, c'est rare d'avoir l'expérience de la prison. Est-ce que votre regard a changé? Vous avez été sarkozyste peut-être?
Non.
Jamais?
Non, pas vraiment.
Parce que c'est un de ceux qui a donné le plus de place et d'importance à la prison, qui voulait en construire d'autres, en augmenter le nombre de... Vous avez, j'ai l'impression, un regard un peu plus mitigé, vous, sur la prison, puisque vous la connaissez.
Je la connais à travers 4 incarcérations, mais qui sont échelonnées dans le temps. La première, c'était en 2000, et la dernière, je ne sais plus, c'était en 2012 ou un truc comme ça. Au début, c'est vrai que j'avais mal au cœur de rencontrer le nombre de jeunes Tunisiens, de jeunes Algériens qui moisissaient, qui ne faisaient rien dans cette prison.
Rien de constructif, je voulais dire.
Et qui m'ont bien accueilli, comme vous l'avez cité. Ça me rappelait un petit peu ma jeunesse en Algérie. J'ai passé quand même ma jeunesse jusqu'à l'âge de 10-15 ans là-bas. J'avais mes amis. Donc... il y avait quelque chose qui me faisait plaisir et en même temps, je disais, ils sont complètement démunis.
C'est-à-dire, ça sert à rien, quoi.
Ça sert à rien, qu'est-ce qu'ils font, là? Quand ils vont sortir, ils n'auront ni argent, ni... et en plus un casier judiciaire. Ils vont attendre, la première chose qu'on va leur poser, c'est trafic de drogue ou un truc comme ça, et ça va recommencer.
Mais vous en avez parlé depuis, de cette expérience à des politiques
non,
de votre région?
Non, j'en ai pas parlé parce que j'ai trouvé quand même que ça s'est radicalisé dans les prisons.
Oui. Hein.
J'avais plus le même contact en 2011 ou 2012. Oui. Ils étaient entre eux. Et j'ai senti qu'il y avait une communauté qui se faisait dans les prisons.
Et qui se refermait.
Et qui se refermait et qui ne n'ouvrait plus la. Et s'ouvrait plus vers moi.
Votre honneur est-il totalement lavé? Il l'est sur le plan judiciaire. Mais est-ce que vous pensez encore des gens qui disent il n'y a qu'au nous, il n'y a pas de fumée sans feu?
Oui. Je pense qu'il y aura toujours, malheureusement, des gens qui diront il n'y a pas de. Mais il y en a peu. Apparemment, je n'ai pas fait un sondage, mais je crois qu'il y en a quand même peu, en particulier à Vence, où je suis toujours à Vence. Et chaque fois que je me promène, surtout dans les premiers temps, j'ai eu énormément de gens qui m'encourageaient à tenir, etc., etc. Donc j'ai été quand même très soutenu globalement. Par contre, on ne se lave jamais d'une telle accusation. C'est une accusation la plus infâme qui existe, quoi. Faire ça à un enfant, c'est tellement...
Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, le regard des gens, vous le sentez sur vous?
Je ne le sens pas vraiment. Mais en dehors du regard, vous savez, les gens, je ne sais pas quand même ce qu'il y a dans chaque tête.
Ouais.
Et j'essaye de l'oublier et j'essaye de vivre normalement. J'ai quand même des amis, j'ai de la famille, etc. Donc ça va. Mais je crois que jamais je n'oublierai complètement une telle accusation.
Christian Iacono a écrit Le mensonge aux éditions Sud-Arène. Merci infiniment d'avoir accepté de revenir là-dessus tant d'années après.
C'est très gentil, merci. Merci à vous.
Merci à vous.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.